Vous écoutez plein sud.
R-F-I.
Vous écoutez Rafi.
C'est plein sud que vous écoutez et c'est demain que vous retrouverez une formule plus classique en phase avec la chicotologie que vous attendez toutes et tous. Vos mails récidiveront demain, même heure, même punition. Cap sur le deuxième focus entièrement consacré à une thématique qui nous est chère dans cette émission, la question de l'eau. L'eau, denrée rare et précieuse, 9 pays se partagent à échelle planétaire 60% des réserves mondiales d'eau. 80% des pays au sud du Sahara n'ont pas accès à l'essentiel. 1,5 milliard d'habitants n'ont pas accès à l'eau potable notamment. 2 milliards sont privés d'installations sanitaires, là je parle à l'échelle mondiale. 6 000 enfants meurent chaque jour dans le monde pour avoir consommé une eau non potable, bien que les maladies véhiculées par l'eau non potable soient faciles à traiter par les temps qui courent. Retour donc au cours d'une circonstance que nous avions déjà évoquée dans cette émission, à la faveur d'une série de reportages focalisés autour de l'émergence du réseau mondial des festivals de l'eau. Nous saluons Jean-Pierre Vauquier. Souvenez-vous, il y a 2 ans, nous recevions Daniel Mitterrand. Cap à présent à travers un reportage de Nzumbalisa sur une thématique qui nous est chère, l'eau, denrée rare et précieuse. Il est encore temps pour mieux faire.
Je suis né ici, dans le village de mon grand-père. Quand nous avions faim, on mangeait du poisson, des tortues ou du chevreuil. On vivait toujours de notre terre. Mais récemment, l'eau a changé. La vie a changé. L'eau n'est plus bonne. On ne peut plus la boire maintenant ici. On ne peut plus manger les poissons non plus. Donc, nous ne sommes pas heureux à cause de cela.
C'était Buffalo Tiger, un chef indien de l'État de la Floride. L'eau, patrimoine commun de l'humanité, constitue le sujet de préoccupation majeure des populations de notre planète. Il s'agit d'un problème de quantité et de qualité face auquel la responsabilité de l'homme est pleinement engagée. Le réchauffement climatique a pour conséquence une raréfaction de ce bien inestimable, sans compter les attaques de pollution qu'elle subit depuis des dizaines d'années, jusqu'au point de mettre en danger la santé et la survie de l'humanité. Aujourd'hui, la question de l'eau ne concerne plus seulement les pauvres, c'est-à-dire les pays en voie de développement. En Australie, les saisons sèches consécutives ont changé le regard, les habitudes des habitants sur la question de l'eau.
La ville ici, c'est Barham, 1500 habitants. Un village à l'américaine, riche, 4 hôtels, des écoles. Pourtant, malgré le retour de la pluie, économie d'eau, surveillance des robinets. On vient de l'apprendre, c'est écrit dans le journal. Pour la première fois ici, restriction d'eau de niveau 4. Qu'est-ce que ça veut dire niveau 4?
Ça veut clairement dire qu'on ne peut pas utiliser d'eau à l'extérieur de sa maison.
Ça veut dire qu'on n'a pas d'eau, on ne peut plus arroser le jardin, on doit économiser, ne pas rester trop longtemps sous la douche, on ne peut plus gâcher.
2006, l'année la plus sèche depuis le début des mesures météo d'il y a 125 ans. Les températures ont augmenté de 1% en moyenne en 40 ans. Des kangourous et des moutons morts de soif, 50 000 agriculteurs menacés. Juin 2007, le Premier ministre a même appelé ses concitoyens à prier pour la pluie.
Il se pourrait qu'il n'y ait pas assez d'eau pour permettre l'irrigation des cultures pour la saison 2007-2008.
Ce problème est commun à la majeure partie du globe. En Afrique, le lac Tchad a perdu près de 90% de sa superficie depuis les années 60, essentiellement à cause du surpâturage, de la déforestation et des grands projets d'irrigation non durables.
Donc c'est ça, ils sont conscients que si le lac se retire, il y a le problème de manque de pâturage, il y a le problème de manque de poissons, il y a le problème de manque de l'eau potable pour eux-mêmes. Et donc c'est un problème, ils sont conscients de ça.
En Chine, le réchauffement climatique absorbe l'eau des deux plus grands fleuves. Souvenez-vous, en août 2003, une canicule exceptionnelle frappe pendant plusieurs semaines l'Europe, provoquant une sécheresse extrême et de nombreuses victimes, dont 15 000 morts en France. À Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, des associations de femmes organisent des séances de prière pour inciter le gouvernement à mettre en place des infrastructures nécessaires à l'accès à l'eau potable. Selon Daniel Mitterrand, il faudrait très peu de moyens pour permettre à une population mondiale d'y avoir accès.
1000 milliards de dollars par an, le budget mondial de l'armement. Les projets demandent pour qu'ils soient réalisés un petit pourcent de ces 1000 milliards de dollars, un petit pourcent par an pendant 15 ans, et dans 15 ans, le monde entier aura accès à l'eau potable. Je crois que c'est une proposition qui est, humainement, qui honore l'humanité, et que nous devons tous se mettre mettre tous nos moyens en œuvre pour pouvoir la réaliser.
Au Bénin, la Société nationale se démène pour approvisionner en eau une population grandissante. À notre micro, M. Damien, le directeur central de l'exploitation à la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin.
Au niveau du Bénin, je peux vous dire que sur les 77 communes que compte le Bénin, la SONEB approvisionne 69 chefs-lieux de communes. Donc, en gros, au niveau de la SONEB, grâce à la DIEPA, la décennie internationale de l'eau potable, au cours des années 80, nous avons essayé de mettre en place un maximum quand même d'infrastructures d'eau au niveau donc du pays. La deuxième observation, c'est que nous utilisons 5% d'eau de surface et 95% sont constitués d'eau souterraine, parce que l'eau souterraine est une eau beaucoup plus facile à traiter et revient moins coûteuse. Au jour d'aujourd'hui, au niveau du Bénin, nous avons un milieu urbain. Nous avons un taux de desserte qui tourne autour de 50%. Et nous tenons à porter ce taux à 75% d'ici l'an 2015.
L'accessibilité à l'eau potable est un problème qui touche une grande partie de la population mondiale. Dans certains cas, boire est devenu un geste dangereux. Les enfants du village de Tibiri, au Niger, en ont fait l'amère expérience pendant 15 ans. Entre 1958 et 2000, ils sont plus de 4000 enfants à avoir bu une eau empoisonnée qui a provoqué chez eux des handicaps parfois très graves. Et la récente privatisation des sociétés nationales des eaux ne semble pas arranger la situation. Au Bénin, un programme a été mis en place par les autorités, ce qui prouve qu'il ne s'agit parfois que d'une question de volonté. Monsieur Damien.
En ce qui concerne le volet assainissement, il y a des insuffisances et c'est pour cela que nous avons, grâce à l'appui du gouvernement toujours, mis en place un comité pour élaborer une stratégie. La stratégie de l'assainissement en milieu urbain a été élaborée, adoptée tout dernièrement, ensemble avec les collectivités locales, et nous comptons donc mettre cette stratégie en œuvre pour que l'assainissement également évolue comme l'alimentation en eau potable.
Voici le témoignage de Monsieur Lenvo, un habitant du Congo-Brazzaville.
Je me rappelle aussi qu'au niveau du Congo-Brazzaville, l'eau que nous buvons, c'est vraiment de l'eau impropre. J'ai des amis, effectivement, qui ont fait des diarrhées pendant 8, 9, 10 mois, qui sont facilement morts, ou on pense à autre chose, hors qu'au fond, c'est aussi autre chose qui se manifestait derrière ça. Je n'avais ni mal au ventre, ni bon de fièvre, rien du tout. C'est ici où on m'a expliqué que c'est dû à l'eau. Mais quand j'ai fait donc le bilan, je me suis référé aux amis qui sont sur place là-bas. J'ai dit, certainement, telle personne, il doit souffrir de ces mêmes parasites qu'on ne peut pas les dépister au niveau du laboratoire là-bas. Déjà, si pour les grandes personnes, il est difficile de supporter ces parasites, combien de fois pour les bébés? Au niveau de Brazzaville, c'est vrai, il y a une partie où il y a un peu de l'eau, mais il y a une partie où l'eau est carrément n'est pas traitée, où c'est l'eau de puits. Donc, si bien que nombre des enfants finissent par mourir parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de traitement adéquat. Et puis, au niveau de certains villages, comme le Tété, un grand centre où j'ai vécu, c'est également l'eau de puits que tout le monde consomme. C'est bien qu'il y a des dégâts parce qu'il y a des diarrhées, des enfants qui sont toutes fait déshydratés. Personne n'est capable de dire de quoi il s'agit. Mais afin, c'est tellement que c'est dû à l'eau parce qu'au moins ils ont des aliments, ils mangent tout. Mais c'est l'eau qui est impropre à la consommation.
Jean-Pierre Vauquier, président de l'association H2O, s'exprime sur la manière dont il faudrait gérer ce bien inestimable.
Je crois que effectivement l'eau, il y a des courts travaux de grosses infrastructures, mais je crois que chaque il faut qu'on développe, aussi bien chez nous qu'en Afrique, une citoyenneté, c'est-à-dire une responsabilité, c'est-à-dire une connaissance de la situation. Il faut que il faut que l'éducation grandisse. Je veux dire par là que si dans des pays, dans des régions, il y a 90% d'analphabètes, etc., je crois qu'on ne peut pas avoir un esprit critique et monter des projets. Ça part d'abord par une éducation normale. Je crois qu'il me paraît important de mener des actions de sensibilisation pour que les gens de là-bas demandent eux-mêmes ce qu'il faut faire, adapté à leur culture. Parce que l'eau là-bas, c'est quelque chose de... Il y a un aspect culturel et sacré qu'on a, nous, complètement perdu. Et je voudrais dire aussi que ce qu'on mène comme action au niveau des échanges de nos jeunes, c'est aussi pour que nos jeunes, en direct, s'imbibent de ce qui est important dans la culture africaine. Et je voulais dire par là la sacralisation de la nature, le respect du vieux, etc., qu'on a, nous, complètement perdu.
L'éducation, la culture, au service d'une eau plus propre, c'est ce que défend un bon nombre d'associations, dont celle de Saint-Laurent du Canada, représentée par Sylvie Trudel.
Je crois que les jeunes sont l'avenir. Et c'est eux-mêmes, on se rend compte qu'eux-mêmes sont en train d'apprendre à leurs parents à protéger la ressource eau. Alors c'est une bonne façon. Nous, on a plusieurs niveaux d'action. On a le niveau éducatif avec les populations, on fait des campagnes. Mais en même temps, comme je disais tantôt, on a beaucoup aussi une action politique pour essayer de faire changer nos propres gouvernements, parce que ça peut partir de la base de la population, mais il faut aussi que les politiques gouvernementales changent par rapport à ça. Toi.
Un rapport publié par l'IFEN, Institut français de l'environnement, révèle la forte présence de pesticides dans les eaux superficielles et souterraines, à un niveau tel que ces sources ne peuvent être utilisées pour produire de l'eau potable sans traitement spécifique. Hélène Boudioski, chercheure au CNRS.
Alors en fait, ce qui se passe quand on consomme des médicaments, donc on les avale, et on ne va pas les transformer de façon complète, donc on va rejeter via l'urine par exemple une quantité de composés non transformés. Cette urine part dans les circuits d'eau usée, se retrouve dans les stations d'épuration où les traitements, bien que très efficaces, ne sont pas complets, et une partie donc de la molécule que l'on a ingérée tout au début se retrouve dans le milieu naturel.
Quelles sont les conséquences directes sur la faune, la flore, nos rivières et lacs, et sur l'eau que nous consommons tous les jours?
On a deux hypothèses qui demandent d'être vérifiées. Donc, à l'heure actuelle, on a mis en évidence cette pollution que l'on pourrait qualifier de domestique, hein, si on l'oppose à la pollution, on va dire, d'origine plus industrielle ou agricole. Donc, on a mis en évidence cette pollution. On s'aperçoit qu'elle est omniprésente, finalement. Dès que l'homme est présent dans l'environnement, ses rejets peuvent être tracés. Il faut nuancer le constat alarmant. On a mis en évidence ces molécules. Maintenant, on n'a pas encore réellement suffisamment de recul pour savoir si ça va présenter un risque majeur pour l'environnement et pour l'homme. Pour le moment, on peut faire des parallèles. C'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, on a mis en évidence des phénomènes d'antibiorésistance. Et on a mis en évidence, donc ça commence à être bien documenté, des phénomènes de féminisation. Donc des équipes de biologistes, notamment à l'Université du Havre, ont travaillé depuis une quinzaine d'années et mettent très clairement en évidence des phénomènes de féminisation. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le parallèle avec les composés qui sont présents dans l'eau soit facile à faire à notre époque, parce que on voit certaines molécules, c'est pas forcément ces molécules-là qui sont responsables des effets que l'on met en évidence.
Maintenant que ce rapport a vu le jour, quelles seront les actions que vous préconiseriez pour revenir à un niveau normal d'eau salubre ?
Revenir à un niveau normal peut poser des problèmes, parce que il va falloir décider quel est le niveau normal. Quand on considère des hydrocarbures, par exemple, qui sont des polluants majeurs de notre environnement, des hydrocarbures ont toujours été présents dans l'environnement de façon naturelle. Et la pollution arrive quand on en ajoute en quantité trop importante. Pour les composés pharmaceutiques, on pourrait décider que le niveau normal est le niveau zéro, quand il n'y en avait pas du tout. Puisque quand il y en a, c'est forcément qu'on en a ajouté. Une telle mesure pourrait être presque ingérable. Donc il est important certainement de poursuivre les études en faisant le lien entre présence et effet, de façon à définir les niveaux à partir duquel on pourra avoir un risque, ce qui permettrait ensuite d'adapter les traitements des stations d'épuration notamment, ou de changer, de commencer à faire changer les comportements de façon à tendre vers ces niveaux qui seraient définis. Mais on n'a pas encore suffisamment de données pour définir ces niveaux.
Nos médicaments polluent l'eau des rivières. Des chercheurs ont effectué des analyses dans plusieurs cours d'eau. Malgré le passage en station d'épuration, l'eau rejetée contient des résidus des médicaments les plus consommés. Des médecins et des experts lancent l'alerte.
Ce qui s'est passé, c'est que les gens, on traite toujours les problèmes par ordre d'importance et par rapport aussi aux possibilités techniques que l'on a à notre disposition. Donc il se trouve que des problèmes de pollution ont été multiples et variés. Bon, on parle beaucoup de pollution à notre époque. Il fut un temps où la pollution était beaucoup plus importante, hein, notamment d'origine industrielle, hein, les pollutions par métaux lourds, les pollutions par PCB, donc des polychlorobiphényles, retardateurs de flamme, hydrocarbures. Donc ces composés ont fait l'objet, dans un premier temps, des études. Et finalement, c'est pas qu'on a résolu les problèmes qu'ils posent, mais on a progressé dans la connaissance par rapport à ces anciennes classes. Et comme la communauté qui travaille dans ce domaine est assez petite, elle a pu petit à petit se rendre disponible pour d'autres types d'études, puisqu'on ne peut pas tout faire. De plus, ces dernières années ont vu arriver des techniques analytiques permettant de doser, on va dire, de façon simple, enfin simple est un bien grand mot, mais de façon plus accessible, ces molécules pharmaceutiques, ce qui n'était pas le cas dans les années 70-80.
Est-ce que l'on peut craindre que la mer elle-même soit polluée par ces mêmes médicaments ?
Oui, sans hésitation, oui. Dans certains cas, on a même des stations d'épuration qui rejettent dans la zone littorale. Donc, c'est clair qu'on va avoir un apport. Les fleuves et les rivières véhiculent ces molécules vers nos côtes. Pour le moment, on n'a jamais noté, du moins sur nos rivages français, d'énormes quantités. Mais on a trouvé ces molécules dans le milieu marin, tout à fait.
Est-ce que l'eau vendue en bouteille est épargnée par ce rapport et la pollution qu'elle dénonce ?
L'eau potable et les eaux de source ne sont pas quand même les premières cibles de cette pollution. Nos réserves en eau nous permettent de penser quand même être relativement protégés par rapport à ce risque sanitaire, qui n'est pas éliminé complètement, il va falloir le documenter. Mais c'est certainement pas le premier problème, semble-t-il.
Quels sont les moyens mis à disposition du consommateur lambda pour assainir désormais une eau susceptible d'être médicalement polluée ?
La même chose que pour les pesticides, en fait. Donc les systèmes de traitement d'eau sur cartouche, les petits systèmes qu'on peut acheter. Enfin, si vraiment les gens craignent une contamination, ils peuvent se prémunir en traitant l'eau de la même façon qu'ils le font à l'heure actuelle quand ils pensent à pesticides, par exemple.
Est-ce que dans ce même cas de figure, le fait de faire bouillir son eau élimine toute la pollution ?
Ça en éliminera certainement une partie pour les composés les plus volatiles. Jusqu'à l'éliminer complètement, non. S'il y en a, pas totalement.
En effet, contaminée par des sous-produits de la transformation de masse, l'eau souillée par les industries constitue une menace à long terme pour tout ce qui vit. Cette eau peut s'infiltrer jusqu'à la nappe aquifère pour polluer les lacs, les ruisseaux et les rivières qui transportent les polluants jusqu'aux régions côtières. Et au-delà des frontières, une nouvelle menace venue du ciel. Des précipitations acides chargées de résidus des milliers de cheminées industrielles et d'autres sources de déchets toxiques. L'eau boucle son cycle et retombe au sol.
Garotinho.